Donc on a entendu un morceau de Philip Glass, quoi, et ça s'appelle le disque, je ne saurais pas prononcer, j'ai encore prononcé comme un pied en anglais.
Et donc Freezing.
Le morceau s'appelle Freezing, c'est avec Suzanne Vega qui chante. Non, mais le titre du disque, c'est Song from Liquid Days. Voilà.
Sur Radio Liberté à 89.4, l'émission de ce soir est consacrée au livre de Ludwig Trovato, encore le procès et à Ludwig Trovato. C'est notre troisième partie.
Chef Lamarion.
Chef Lamarion, le livre, Vincent.
Moi, je voulais plus aborder ton boulot de cinéaste, auteur, réalisateur. T'as fait pas mal de documentaires, notamment sur Pasolini, sur Billy Dee Jones, et maintenant, enfin, prochainement sur Ian Paymire. Je voulais savoir si c'était un choix délibéré de travailler sur des artistes où le corps est quand même vraiment très présent, que ce soit pour le chorégraphe ou même le sculpteur Klaus Rinke.
De toute façon, j'ai toujours travaillé sur des gens qui m'intéressaient, et donc soit c'était par choix. Bon, le premier sur Pasolini, ouais, c'était un vrai choix, parce que Pasolini, c'est quelqu'un qui a dont l'œuvre compte beaucoup, beaucoup dans ma vie. Enfin, jusqu'à un roman de lui. Bon, Pasolini était cinéaste, poète, metteur en scène de théâtre, romancier, etc. Et là, il écrit un dernier texte qui a été édité il y a quelques années, qui s'appelle Pétrole, mais donc il a été édité de façon posthume, puisqu'il est mort dans les années 75. Et Pétrole, c'est intéressant parce que, en fait, le personnage principal de son roman est un homme qui s'appelle Carlo, et qui, à un moment donné, devient une femme. C'est-à-dire, il se sépare, donc ça, un temps à vivre sur la multiplication des corps, et à un moment donné, il y a Carlo et son jumeau Carlo, qui sont une même personne, mais à un moment donné, le double de Carlo devient une femme. Il continue sa vie d'homme, mais quand il se met à baiser avec des mecs, il est une femme. Et c'est complètement troublant, quoi. Et c'est un roman, malheureusement, dont on parle peu de Pasolini, bah, qui est sorti il y a quelques années, qui était traduit en français, voilà. Donc, mais bon, pour le reste, donc, pour revenir à mon métier, effectivement, après avoir fait ce film-là, je me suis intéressé à des auteurs ou des personnalités qui évidemment ne sont pas dans une norme. Donc c'était des opportunités de rencontre, comme avec Pierre Guyotat, donc qui est un auteur français, et puis jusqu'à Billy Dee Jones, chorégraphe américain, et puis là, le dernier tournage que j'ai fait, c'est donc sur un peintre qui s'appelle Ian Paymire, qui est chinois, qui vient en France quand même depuis longtemps. Donc, il a fait toutes ses études aux Beaux-Arts de Dijon, et qui va faire une grosse expo à partir d'avril. En plus, c'est l'année de la France en Chine et l'année de la Chine en France. Et il va faire une grosse expo à partir d'avril. Et moi, je vais présenter ce film que j'ai fait sur lui, quoi. Donc, j'ai suivi son travail pendant un mois. Il a fait un travail autour de la mort qui s'appelle Funérailles. Et donc, il a peint des cadavres. Triste. Donc je m'intéresse au corps,
phase
terminale. Mais enfin, ce que je trouvais intéressant, parce que je me suis quand même renseigné sur Ian Paymire, c'est comme c'était à la base un peintre de propagande sous le régime maoïste, il fait quand même des toiles qui ont des dimensions énormes, donc forcément travailler avec le corps à ce moment-là.
Il travaille beaucoup sur le corps, enfin, évidemment, il fait des peintures gigantesques. Lui, il a été un peu un peintre officiel du régime maoïste, mais très jeune, hein, parce qu'il avait 15-16 ans. Après, il est venu faire ses études en France. Et ouais, c'est sûr, de toute façon, le corps m'intéresse beaucoup. Et ça m'a toujours intéressé de filmer des corps et voilà, même quand je fais des entretiens avec des gens, ce qui m'approche, c'est aussi la matière des corps et la sensualité et tout. Et bon, j'ai fait surtout des documentaires, pas de fiction, mais bon, j'imagine que je pourrais aujourd'hui, de la même façon que j'ai écrit ce livre-là, faire un travail plus personnel avec l'image, quoi.
Justement, comme tu as beaucoup travaillé sur l'image, enfin, qui a été ton support de communication privilégié, et dans la mesure où ce livre était une commande, est-ce que tu pense qu'un jour tu aurais été amené à ce passage de l'image à l'écriture par toi-même, ou ce qui était à la base une, pas forcément une contrainte et est devenue ensuite une nécessité, puisque la preuve, tout le monde.
C'est vrai qu'au départ, moi, avant de penser à écrire le livre, j'imaginais sous la forme d'un film. C'est de cette manière-là que. Enfin, c'est en imaginant faire un documentaire sur cette histoire-là que j'ai rencontré Marcela Yacoub, et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi tu n'en fais pas un livre? Et c'est que j'y pensais pas, quoi. C'est un peu elle qui m'a mis sur la voie, enfin, c'est même elle qui m'a mis complètement sur cette voie-là, et je me suis complètement plongé dedans, et ça m'a vraiment complètement excité. Du coup, j'ai un peu laissé tomber de l'idée d'en faire un film. De toute façon, ce sera un peu redondant maintenant de faire un film sur le même thème.
Tu avais commencé à écrire d'ailleurs un scénario que tu
as eu.
D'où tu nous donnes quelques extraits dans Encore en procès.
C'est différent, parce que justement, je trouvais que c'était bien de mettre des extraits du scénario, d'un scénario de fiction dans ce texte qui est un récit, pour aussi montrer que scénariser une histoire pareille, ça ne peut se faire que si on la transpose. C'est-à-dire, on va faire un truc, un tournage comme ça, complètement réaliste, ça ne marcherait pas. Ce qui peut marcher par le récit autobiographique, au cinéma, ce serait difficile. Ou alors, à moins d'en faire un truc complètement aussi autobiographique, de se mettre devant une caméra, mais de faire jouer par des acteurs, de reconstituer l'histoire, ça a peu d'intérêt. Alors ça m'intéressait de montrer des bouts de scénario où je transposais l'histoire, c'est-à-dire que les personnages, je les changeais complètement. C'est-à-dire que mon accusateur, il devenait un peu multiple, il prenait des visages différents, il devenait tantôt un prostitué, tantôt un mec rencontré dans un bar, il avait des visages...
Il y a toujours ce flashback de toute façon, même dans ton projet de scénario et dans ce livre. Moi je voyais un film. Effectivement, en le lisant.
Ouais. C'est peut-être aussi le fait de. Ouais, peut-être que c'est écrit de manière finalement cinématographique. En tout cas, dans le découpage, ouais. Peut-être que ça s'apparente à ça.
J'aurais posé une question qui n'était pas du tout prévue, qui me vient comme ça. En fait, c'est vrai que tu es d'abord réalisateur. Tu es dans l'image, tu es dans le visuel, et là, tu t'es projeté dans l'écriture. Avec justement ce besoin de passer à la description. À l'identification, tu le dis, si on ne formule pas, on n'est rien. Est-ce que aujourd'hui, que maintenant, enfin quelque part, cette mise à nu que tu as faite, après cette mise à nu officielle qu'on t'a imposée, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais que ton métier de réalisateur sera aussi un métier de réalisateur transgenre ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu repartiras, tu auras cette étiquette-là ? Est-ce que tu penses que ça va faire évoluer ta vision ? Est-ce que tu ne te sentiras pas plus libre de montrer des choses ou de dire certaines choses ?
Non, parce que je ne me suis jamais senti pas libre de montrer des choses. Je veux dire, dire, parler de soi, c'est différent. Enfin,
est-ce que tu ne seras pas plus militant, peut-être, quelque part ?
Ça, c'est difficile.
L'écriture est militante, l'image,
oui, bien sûr, mais pas Pasolini, d'ailleurs, comme Jean Genet, sont aussi des gens qui n'ont pas... Enfin, si, bon, Jean Genet était un vrai militant politique, Pasolini aussi, militant politique, mais pas militant de la cause gay.
D'accord.
C'est différent. Mais en même temps, leur action et leur création... a permis à ouvrir des choses, et justement parce que c'est devenu aussi des œuvres universelles, et des choses qui deviennent universelles, c'est des choses aussi qui explosent et qui sortent qui cassent un peu le ghetto. Après, c'est des choses qui peuvent être utilisées par la communauté, etc. Mais bon.
Tom, l'heure, mais et nous avons encore plus que 2 minutes. Est-ce que je cherche quand même une question à poser à Ludwig, même si on est juste à là. Est-ce que justement, est-ce que tu n'as pas la sensation que la question trans, notre question trans à des degrés divers exprimée, je veux dire, et justement, confine justement cette dimension universelle ?
Mais oui, probablement.
Dans l'humanité.
Probablement. Moi, je sais que j'ai eu des réactions de lecteurs qui sont pas... enfin, qui ont une vie classique, qui sont hétéros, que ce soit des hommes ou des femmes, m'ont dit, mais on est très touché par le livre, parce que finalement, mais ça nous touche aussi. Nous, en lisant ton livre, on se pose des questions, et tout le monde devrait le lire, parce que c'est à la fois très pédagogique, et tout le monde devrait le lire. Alors bon, quand on entend ça, c'est des compliments formidables, parce que ça veut dire que ça sort d'une sphère, comme ça, particulière. En plus, c'était pas le but.
N'empêche que c'est quand même la question trans, je veux dire, transcende probablement les questions humaines de l'homme, de la femme.
Et puis ça dérange. Mm-hmm. Ça dérange l'ordre établi, donc forcément ça.
Bien, je crois que l'émission va se terminer. Je vais remercier David, Tina, Christelle et Stéphanie, notre public de ce soir. Merci Tom qui a assuré la technique. Merci Maxime. Merci Vincent. La prochaine émission aura lieu le 12 février. L'histoire est revue sur Radio Libertaire. 89.4.
Et il sera question de transsexualisme et droit du travail.
Transsexualisme et droit du travail.
Nous aurons Jean-Marc de la CNT et un autre invité de la CNT.
C'est génial. Ludwig, nous voulons te remercier.
C'était vraiment ravi de te rencontrer la deuxième fois. Vraiment, merci beaucoup.
On va te laisser le mot de la fin, puisque je crois qu'on va le morceau qui va partir en musique.
C'est parti doucement.
C'est parti doucement en fond.
Voilà, en fond. Quand tu vas l'identifier, tu vas me dire ce que c'est.
C'est le morceau.
Vas-y, femme toute. Vas-y, femme toute. Et c'est un. Sono resti al vento, c'est un très, très bel aria. Et bien, on ne l'entend pas. Parce que le début est magnifique.
Vous avez laissé les micros et dès que vous voulez.
On va lancer parce que le début est très très beau. Donc voilà, bon, ben, c'est un des plus beaux morceaux de Mozart, donc il faut écouter.
Merci de vous.
Bonsoir.
Au
revoir.